France Culture.
Talmudique. On se souvient de cette phrase du roman de Philip Roth, intitulé Patrimoine. La nécessité de se souvenir, de ne rien oublier, est importante car être vivant, c'est être fait de mémoire. Si un homme n'est pas fait de mémoire, il n'est fait de rien. Fin de citation. Être fait de mémoire n'est pas si simple, bien évidemment. Car de quelle mémoire s'agit-il ? De la mémoire collective ? De la mémoire individuelle ? Et qu'en est-il de la mémoire traumatique qui empêche de vivre normalement et que l'on essaye justement d'oublier ? Ce sont ces différentes mémoires que le très grand écrivain Aaron Appelfeld a particulièrement explorées à partir de son expérience personnelle et a choisi de les mettre en œuvre en passant par la fiction, tout comme Philip Roth, dont il fut l'ami. Mais pourquoi et comment la fiction ? Dans quelle langue ? Avec quel silence ? Dans quel style ? Par quel média ? Et par quelle rencontre ? C'est à ces questions que s'est confronté un collectif de professeurs, d'artistes, d'écrivains, de traducteurs, de cinéastes, de journalistes et de psychanalystes, réunis dans un livre beau et émouvant, intitulé « Rencontre avec Aaron Appelfeld », qui paraît aux éditions Imago. Un livre à l'initiative et sous la direction de René Adjiman et Valérie Perraguillot, respectivement psychologue clinicienne et psychanalyste, et psychiatre et psychanalyste, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui et la semaine prochaine. René Adjiman et Valérie Perraguillot, bonjour.
Bonjour.
Aaron Appelfeld, dont l'œuvre est traduite dans le monde entier, est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands écrivains de la littérature contemporaine. Et pour le comprendre, il est d'abord nécessaire de faire plus ample connaissance, car si son œuvre n'est pas autobiographique, sa biographie joue un rôle essentiel dans son écriture. Qui est Aaron Appelfeld, Valérie Perraguillot ?
Aaron Appelfeld, d'abord, n'est pas né Aaron, mais est né Erwin Appelfeld. Il est né en 1932, en Bukovine, qui est un territoire maintenant entre la Roumanie et l'Ukraine. Il est décédé le 4 janvier 2018, en Israël. Il était le fils, il se décrit comme ça, unique et chéri d'un couple de juifs assimilés, germanophones, cultivés. L'allemand était la langue parlée à la maison. D'un autre côté, il avait des grands-parents maternels qui étaient des paysans simples. Et là, il était entouré, imprégné d'une langue qu'il ne comprenait pas, mais une langue qui le pénétrait, une langue qui portait la foi, qui était le yiddish. Donc, entouré de plusieurs langues. Quand il a 8 ans, la guerre éclate, son monde s'effondre, sa mère est tuée en 1940, est assassinée en 1940. Lui et son père sont déportés. Et ce qui est très important, c'est que son père ne lui lâche pas la main.
Plus tard, ils nous ont fait marcher jusqu'au camp. D'abord en train, jusqu'à un certain point, puis nous avons marché. C'était une marche de la mort. Une marche de la mort. Beaucoup de gens sont morts en chemin. Surtout des enfants. C'était l'automne. Alors ils s'enlisaient. Et personne ne pouvait les sauver. J'ai eu de la chance. J'avais 8 ans. 8 ou 9 ans. Papa m'a pris sur ses épaules et m'a porté tout le long du chemin. C'est comme ça qu'il m'a sauvé. D'autres pères n'étaient pas assez forts pour porter leurs enfants, alors les enfants se noyaient dans la boue.
Ils sont séparés quand ils arrivent au camp, et là, il a cette phrase incroyable, ce petit bonhomme de 10 ans, « J'ai décidé de m'enfuir ». Alors il connaît une autre errance. ces trois longues années à vivre dans les forêts d'Ukraine avec des voleurs, mais aussi hébergés en hiver chez des prostituées, des paysans qui lui donnent un bout de couvert et de toit en échange de beaucoup de travail. Et puis, troisième étape de ce parcours, c'est la fin de la guerre. Il est pris par l'armée rouge en 45. Et puis, il fait une traversée avec beaucoup d'adolescents de son âge, orphelins, d'est en ouest, arrive en Italie, embarque pour la Palestine et là, nouvelle épopée. Alors, il arrive en 1946 en Palestine. Mais s'il ne connaît plus la faim, la soif et le risque de mourir à tout moment, d'être tué, c'est une autre précarité qu'il va connaître, c'est-à-dire qu'il ne parle plus aucune langue. Il ne parle plus l'allemand, qui est la langue des assassins. Il a oublié toutes les langues. Et puis, l'apprentissage de l'hébreu tel qu'il le rencontre à son arrivée, qui était encore la Palestine, est un apprentissage très technique, sans âme, et il est confronté à cette impossibilité de parler. Donc là, c'est un mutisme. Il lui faudra rencontrer des hommes, des écrivains, des hommes de lettres, qui parlent à la fois hébreu et yiddish, pour renouer avec son histoire. Et à partir du moment où il peut renouer, retrouver des traces de ce qu'il a vécu, de son enfance, il va commencer à pouvoir écrire et devenir l'écrivain qu'on connaît.
Un parcours important à connaître. Nous allons parler du livre que vous avez construit autour de son œuvre. Mais d'abord, dans quel cadre l'avez-vous rencontré, l'une et l'autre ? Et je rappelle le titre de ce livre, « Rencontre avec Aaron Appelfeld », rencontre au pluriel, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont convoquées dans ce livre l'ont rencontré, soit directement, lui parlant, ayant la chance d'échanger avec lui, soit en le lisant. Vous, l'une et l'autre, comment l'avez-vous rencontré ? On va commencer par René Hadjiman.
Alors moi, je l'ai rencontré avec en lisant « Histoire d'une vie ». Et « Histoire d'une vie », j'ai reconnu quelque chose de l'histoire familiale dans « Histoire d'une vie ». Donc j'étais vraiment touchée du côté le plus intime, j'allais dire, de cette rencontre. La Shoah, c'était quand même quelque chose qu'avait connu ma famille. J'ai une grande sœur que j'ai jamais connue qui a été déportée à Auschwitz. Et donc... et une mère qui, finalement, s'était construite une fiction intérieure pour pouvoir accepter, enfin, on n'accepte jamais, mais pouvoir vivre cette absence. Et c'est la fiction qui m'a, moi, accrochée, véritablement, la façon dont Aaron Appelfeld parle de la fiction, hein, plus que de la mémoire, plus que tous ces éléments-là, parce que ça venait rencontrer quelque chose que j'avais connu ou entendu parler, en tout cas. Et donc... cette question de la fiction a donné lieu à un travail de recherche parce que bon, il fallait que je puisse un peu conceptualiser parce que dans le fond, ça permettait de mettre à distance un peu aussi comme une psychanalyse qu'on fait, c'est-à-dire un moment où on rencontre quelque chose dans lequel on ne peut rien dire. On n'a pas les mots pour le dire, qui est la rencontre avec le traumatisme. Bon, on sait même pas que c'est un traumatisme. On sait simplement qu'on n'arrive pas à dire quelque chose de cette histoire-là. Et la fiction est quelque chose qui enveloppe. Et j'aimerais citer Aaron Appelfeld quand il dit par rapport à l'écriture, je l'ai rencontré personnellement, je suis allée le voir parce que j'avais plein de questions, il fallait que je travaille un petit peu là-dessus. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous avez choisi l'écriture, Aaron Appelfeld ? Et il m'a dit, l'écriture est un vêtement, on ne se tient pas nu à découvert. Et j'ai trouvé ça formidable. Voilà, et ça m'a donné envie vraiment d'en faire quelque chose et effectivement de demander aux auteurs qui avaient tous, comme vous l'avez dit, rencontré Aaron Appelfeld personnellement, qui ont travaillé avec lui et qui en plus en ont fait une création parce qu'ils étaient connus ces gens-là. Parce qu'il y a plein de gens qui ont rencontré Aaron Appelfeld, il était formidable parce qu'il avait une façon d'être avec vous. Il disait, on venait pour lui poser des questions, il commençait d'abord par lui-même à dire, mais d'où venez ? Mais vous parlez ? Alors si vous venez d'Europe centrale, donc vous parlez le yiddish, justement je comprends, mais je ne parle pas, etc., etc. Et voilà comment il s'intéressait à l'autre. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est tout à fait Aaron Appelfeld.
Valérie Peraguillo, vous, comment l'avez-vous rencontré ?
en écoutant une émission de France Culture dans laquelle Valérie Zenati parlait d'Appelfeld. C'était une émission de Finkielkraut.
Valérie Zenati est la traductrice d'Appelfeld.
En français. Et j'ai lu Histoire d'une vie. Je suis ressortie de cette lecture sonnée. Et donc, il m'a fallu relire pour essayer de saisir ce qui m'avait autant bouleversée. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Aaron Appelfeld. Ça a été le premier pas vers la lecture et relecture d'Aaron Appelfeld. Je l'ai rencontré dans une librairie puisqu'il était venu à Rouen pour Badenheim 1939, voilà. Mais la rencontre essentielle, ça a été Histoire d'une vie.
Vous êtes psychiatre et psychanalyste. En quoi la psychanalyse trouve dans l'œuvre et la personne d'Appelfeld un champ d'exploration particulièrement fécond ? Vous dites vous avez été sonné en lisant Histoire d'une vie. Qu'est-ce qui a sonné en vous, chez vous ?
D'abord, la question du trauma, sans jamais le dire. En fait, ce qui est peut-être dans l'histoire d'une vie, c'est l'endroit où il en dit le plus, mais ce n'est pas sa biographie. Il n'a jamais écrit une autobiographie, il le dit. Mais il y a quand même le trauma est au cœur d'histoire d'une vie, comme dans tous ses livres. Dans les autres, il y a vraiment la dimension de la fiction. Là, peut-être, c'est un peu moins voilé. Et puis, là, il y a la façon dont il va traiter ce qui est pour lui un trou, un abîme. Au fond, ce qui est très particulier, c'est qu'il explique bien comment les enfants n'ont pas la mémoire des adultes. Un enfant ne peut pas faire un récit, puisqu'il n'a pas encore les mots, il ne se repère pas dans le temps, il ne se repère pas dans l'espace. Et au fond, avec quoi il va bricoler ça ? Et c'est des phénomènes de corps. C'est des cris, des bruits, des sensations physiques. On peut retrouver ça chez certains de nos patients qui ont vécu donc des traumatismes, ou recréer un récit part d'abord de ces phénomènes de corps et à partir de là, ils vont pouvoir reconstruire un récit. Mais il faut pour ça qu'ils aient une adresse. Appelfeld, il a trouvé son adresse à travers ses lecteurs et au fond, les gens qui viennent nous parler, ils trouvent leur adresse chez le psychanalyste.
Alors, vous parlez de trous et il y a ce jeu de mots de Lacan, puisque vous êtes toutes les deux lacaniennes. Il parle de traumatisme. Absolument. Comment, René Adjiman, vous comprenez la fiction comme possibilité de sortir de l'abîme du trou, de l'abîme du traumatisme.
J'ai fait quelques hypothèses sur cette question. C'est-à-dire comment, finalement, la fiction, la littérature, c'est quelque chose qui lui a bordé ce trou. Parce que, comme le disait très justement Valérie, comment on va parler à partir du trou ? Quels sont les mots qu'on va inventer pour pouvoir parler de ce trou ? Et finalement, la psychanalyse, quand on l'a vécu aussi pendant très longtemps, on prend ce mot-là, ne va pas, ce mot-là, ne va pas. Vous voyez, on cherche un peu. Et lui, ça a permis de mettre un voile sur l'horreur qu'il a connue quand même en tant que petit garçon, tout ce qu'il a vécu. Voilà. Ça met un voile. C'est ça l'idée finalement que j'ai trouvée chez Aaron Appelfeld et qui a nourri la recherche que j'ai faite à ce propos-là.
Ces rencontres personnelles que vous avez faites l'une et l'autre vous ont conduite à désirer réaliser ce livre. Il y a trois cinéastes, trois psychanalystes en dehors de vous deux, deux romanciers, deux universitaires spécialistes de littérature israélienne, une journaliste de radio et un artiste peintre qui est aussi le fils de Aaron Appelfeld. Comment s'est fait ce choix, René Adjiman ?
Pour moi, il fallait que les personnes, d'une part, soient connues, qu'on entende, que leur nom avait circulé, et qu'aussi, ils l'avaient rencontré. Et en fait, c'était notre idée à toutes les deux. Qu'est-ce qui fait rencontre ? C'est ça qu'on voulait savoir. Alors bon, Laura Adler, elle avait fait beaucoup d'interviews, elle lui avait posé des questions quand il était venu présenter L'homme qui voulait dormir. Il y avait Emmanuel Finkiel qui a fait La chambre de Mariada et on la rencontre pour lui poser des questions sur l'écriture cinématographique parce que l'écriture était vraiment là. Alors il a trois enfants, il y a Meir Appelfeld que j'ai rencontré, qui il y a un des textes dans le livre, il y a Isaac Appelfeld qui nous a beaucoup aidés aussi à trouver la très belle photo qu'on a sur la première de couverture et Batia que je n'ai pas rencontré mais qu'on va rencontrer en Israël parce que nous organisons un grand colloque avec tous les auteurs dans le livre israélien qui vivent là-bas. Donc Meir Appelfeld, c'est un garçon vraiment extraordinaire et qui a un très beau texte dans notre dans le livre et alors les autres aussi. Donc on leur a écrit on a construit un peu les mails, Valérie et moi, on leur a écrit, et vraiment, miracle, tous ont répondu oui. Et ça a donné vraiment des textes, alors je dois le dire, tout à fait singuliers. Vraiment, vous verrez, chacun le dit autrement, et ce qui est intéressant, vous posiez la question de la psychanalyse, elle est impliquée, bien entendu, puisque chacun le dit avec ses propres mots.
Oui, parce que vous leur avez posé à tous la même question.
Oui.
En quoi la rencontre avec Appelfeld a-t-elle influencé votre travail, votre réflexion? Alors, c'est une question très ouverte, mais très efficace, qui dit beaucoup de l'œuvre d'Appelfeld, qui invite à créer, à penser, à poursuivre un chemin, et chacun, comme vous le dites, dans sa singularité, parce que on a Amos Gitaï, qui nous parle du film qu'il a fait sur le livre Tzili.
Absolument.
On a Meir Appelfeld, donc, que vous venez d'évoquer, qui est un peintre, qui parle de son père aussi bien que son père aurait parlé de son fils.
Bien sûr.
Et puis, il y a Michal Govrin qui termine l'ouvrage. Il y a Valérie Zenati, bien
Absolument.
Sûr. Et puis, il y a vous deux. Et il y a encore Emmanuel Finkel, que vous avez évoqué, qui parle de son film, comment il a réalisé La chambre de Mariana. Mm-hmm. Il y a Michel Tauber qui parle des langues, et on y reviendra aussi. Il y a Yigal Schwartz,
Absolument.
Qui est un professeur de littérature et un éditeur.
Il était son premier éditeur.
Oui.
Voilà, en Israël.
En Israël.
Hein, vraiment. C'est la première fois qu'il était édité grâce à Yigal Schwartz. Oui.
Et alors, on a aussi Hervé Castanet qui va nous parler de la langue dans un article qui s'appelle « Sans langue, tout n'est que chaos ». Dans les personnes qui font partie de cet ouvrage, il y a aussi Laure Adler qui fait une très belle interview de Aaron Appelfeld en février 2017. Et il y a aussi une très belle préface de Clotilde Le Guil qui s'appelle « Ébranler les fondations de l'oubli ». Nous sommes en train d'entendre la musique du film d'Amos Gitaï, intitulé Tzili, d'après le roman éponyme d'Aaron Appelfeld, à propos duquel le romancier écrivait « L'ennemi intérieur était ma mémoire, elle entravait mon écriture, il me fallut des années pour le comprendre, le tournant se produisit quand, avec un sentiment de désespoir, je me mis à un certain moment à écrire non plus sur moi, et ce qui m'était arrivé pendant la Shoah, mais sur une petite fille juive, errant par les bois et les villages, le changement peut paraître insignifiant, mais miraculeusement, comme sous l'effet d'un coup de baguette magique, ma mémoire compulsive disparut, et à sa place, ou à ses côtés, vinrent l'un après l'autre le sens de l'alternative, de la proportion, le choix des mots, tous les procédés dont l'artiste a besoin pour écrire. La question que j'avais devant moi n'était plus désormais « qu'est-il arrivé ?» mais « que faut-il qu'il arrive ?» La formule est belle et éclaire de manière profonde le sens de la fiction pour Appelfeld, mais cela mérite commentaire et peut-être aussi un mot sur cette scène du film où on voit Tzili courir dans les bois. Valérie Perragio.
Donc, qu'est-il arrivé? Que faut-il qu'il arrive? Ça fait référence à la mémoire. Et il me semble que ça fait référence à ce moment où on cherche absolument une vérité, à dire la vérité, toute la vérité. Or, c'est impossible. Et il se confronte à ça, Appelfeld. Dans le premier temps, il essaye de retrouver ce qu'il a vécu. Et au fond, il dit, mais les mots sont plats. Ils sonnent même faux, enfin, ce qui est encore pire. Alors, que faut-il qu'il arrive? Eh bien, il faut, dans ce faux, il me semble que dans ce que faut-il, il y a un arrachement. Il y a une décision, mais c'est aussi un arrachement et c'est une douleur. Eh bien, il faut renoncer à toute la vérité parce qu'elle est impossible. Donc, c'est là, c'est dans ce que faut-il qu'il arrive, eh bien, lui va faire le choix de la fiction. C'est-à-dire quand c'est en renonçant à cette vérité qui n'existe pas d'une certaine façon, qui sans arrêt se construit, eh bien, il, passer par la fiction va lui permettre d'aller vers l'avenir, de se tourner vers l'avenir et de pouvoir dire quelque chose de ce qui lui est arrivé, justement.
C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait, absolument, c'est en s'éloignant de la vérité qu'il va au plus près
du réel. Voilà, la vérité n'est pas le réel.
Il faut expliquer parce que le réel n'est pas la réalité.
Voilà, le réel n'est pas la réalité. Le réel, c'est le, au fond, pour lui, c'est le trou. C'est le trou qu'a laissé la Shoah dans sa vie. Et ça, personne, rien ne peut remplir ce trou.
Pour Tzili. Alors Tzili, vraiment, c'est une invention, on peut dire, chez Aaron Appelfeld. Comment il passe, finalement, de... On croit que, finalement, notre identité est liée à notre sexe, mais pas du tout. On peut avoir une identité et on peut se revendiquer, on le voit aujourd'hui, par une autre identité. Par exemple, lui, il a dit « petite fille », parce que « petit garçon », c'était son histoire, justement. « Petite fille », il a fait une trouvaille d'une substitution imaginaire, c'est-à-dire qui... Et c'est à ce moment-là qu'il construit la fiction. C'est vraiment le démarrage de la fiction pour lui. C'est le point, c'est la naissance pour lui, de, on peut dire finalement, de la fiction. Il se donne un autre nom. Il sort de ce qui l'envahissait jusque-là et dont il ne pouvait pas parler. Il a parlé par exemple de son premier livre qui était « Achan, la fumée ». Donc on comprend ce que ça veut dire, mais il dit « mais c'est pas possible, je vais pas continuer à parler comme ça encore et encore », parce que justement vous parliez de la mémoire, on a aussi des patients qui viennent et qui peuvent rien dire, après avoir rencontré ce réel dans lequel vous cognez, c'est un mur, vous tombez sonné. Donc il y a quelque chose là qui ne peut pas se dire. Il va falloir attendre un certain temps avant que des bribes de mots, peut-être des cris, peut-être des images, mais qui ne peuvent pas être traduites. Donc c'est un peu ça. Donc il a, c'est vraiment, d'ailleurs c'est extraordinaire ce passage que vous avez lu, voilà.
C'est-à-dire que la fiction tourne autour du trou,
absolument,
c'est-à-dire de ce réel impossible à la fois à se représenter et à formuler. Alors la fiction, chez Appelfeld, c'est aussi la question de la singularité. Écrire sur les milliers, dit-il, sur la masse, c'est comme ne pas écrire. Et donc son combat fut de redonner toute son humanité à celui qui a connu l'expérience de la Shoah. Et cela passe par la fiction et non par la science historique, qui est cependant nécessaire. La question de la singularité, de la subjectivité, c'est aussi quelque chose qui est au cœur de votre expérience analytique à toutes les deux. Sortir du « nous », du « on », du collectif, pour retrouver la parole d'un jeu, d'un sujet unique. Valérie Perraguillot.
C'est une question très actuelle pour les psychanalystes, auxquels on ne cesse de reprocher, justement, de travailler au cas par cas. Alors ça, c'est pas quantifiable. Le singulier n'est pas quantifiable. Et toute l'œuvre d'Appelfeld tourne autour de ça. Chaque personnage, chaque livre a sa propre histoire. C'est exactement comme dans nos rencontres avec les patients. Chaque personne qui vient s'adresser à nous, l'idée c'est de trouver avec lui sa solution singulière. Il n'y a pas une solution qui vaut pour tous, ce n'est pas une rééducation. On ne rééduque pas. Je pense que c'est pas une solution, la rééducation. Et donc, on est confronté à ça. Et c'est très soutenant de lire Appelfeld dans un monde où tout est protocolisé.
On comprend donc, René Hadjiment, que la fiction qui parle des personnages, justement, comme vient de dire Valérie Perraguillot, est quelque chose qui concerne le sujet unique. Et c'est pour cela que je pense que c'est un écrivain universel. Et comme il le disait, et qu'il aimait à le répéter, « Je ne suis pas un écrivain de la Shoah », René Hadjiment.
Il ne voulait pas écrire à partir de l'universel. Toute son œuvre est construite à partir du singulier. Et c'est ça qui nous a, enfin, bon, moi je peux le dire, qui nous a plu parce que ça vient rencontrer, en effet, ce à quoi on croit, ce qu'on avait vu comme analysante. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup. Et moi je vais vous dire pourquoi j'étais un petit peu au départ, quand on en a parlé avec Valérie, elle a été tout à fait enthousiaste pour qu'on puisse faire ce livre. Parce que dans le fond, et il démontre, lui, il fait de l'écriture de ses fictions une cause. C'est celle de lutter contre le discours de la science, contre le caprice du maître qui mutile la langue et fait parler les chiffres dans l'univers. Alors on disait avant nazi, mais on peut le dire aujourd'hui, dans l'univers d'une manière générale et internationale peut-être aussi. Donc l'affirmation d'Aaron Appelfeld dans L'héritage nu, d'ailleurs un de ses livres, il y a une affirmation très forte à laquelle je suis prise aussi, qui dit « l'homme comme numéro » est une des horreurs de la déshumanisation. Et je crois que ça, c'est extrêmement fort. C'est ça qui montre la fiction appelfeldienne. À savoir, voilà, chacun.
Et à partir de ce chacun, même s'il ne voulait pas être un écrivain universel ou d'écrire sur l'universel, il devient universel.
Absolument.
C'est le paradoxe de la fiction. C'est en parlant de la singularité d'un sujet que le livre et la fiction est universel. Alors ce qui est intéressant, se retrouvant justement comme sujet, s'ouvre alors la possibilité de rencontrer l'autre.
Oui.
C'est-à-dire que si on est déjà dans le collectif, dans le « nous », dans le « on ne peut pas rencontrer l'autre, et la fiction permet cette singularité. Et Aaron Appelfeld nous dit aussi pourquoi il écrivait, et là où on voit comment il rencontre, il dit « c'est un secret qu'il nous révèle, secret répété tout au long de sa vie d'écrivain. Et dans votre livre, c'est dans l'entretien avec Claudia Hidan, il écrit, disait-il, « pour retrouver la maison de ses parents, pour retrouver sa ville et sa région, l'écriture est construction et reconstruction, son écriture est architecture d'une certaine manière. Il cherchait des racines et le récit de cette recherche et de cette quête touche en fait tout un chacun, car nous avons tous besoin de racines et d'enfance. » N'est-ce pas, Valérie Perraguillo?
C'est tout ce que l'on fait, effectivement. On n'est pas des êtres sans passé. Ça, c'est l'introduction que propose Clotilde Le Guil. Elle s'appuie sur la nécessité de se rappeler, mais au sens rappeler, au sens de l'appel d'un retour. C'est pas se souvenir, c'est se rappeler, c'est aller chercher quelque chose au plus profond. Et néanmoins, c'est une construction.
Oui.
C'est la difficulté. Et ce que je trouve très singulier chez Appelfeld, c'est qu'il y a un moment de silence dans son, au moment de la guerre, pour lui, où il est complètement seul dans les forêts. Et il y a un silence qui est ne pas parler de sa maison, parler de sa famille, aux petits oiseaux, aux ruisseaux, dans la nature, mais pas rien que sortir les mots. C'est les perdre. Et donc, il garde au fond de lui ce secret, le secret de son enfance, de ce qui a été les moments heureux, pour ne pas les perdre. Parce que parler, c'est toujours un peu perdre quelque chose.
Mais alors, il va retrouver justement, par la fiction, la possibilité de dire la maison, de dire l'enfance, de dire les parents. D'ailleurs, en le voyant, j'ai toujours pensé que c'était un petit garçon.
Oui.
Qu'il était toujours resté petit garçon. Son fils le dit d'ailleurs.
Oui.
Parlez-nous donc de cette dimension d'enfance qui est essentielle dans sa fiction, René Hadjiman.
Alors, il y a peut-être deux points qui marquent un peu le travail, la création d'Aaron Appelfeld. C'est quand il dit qu'il arrive en Israël, il est dans le réfectoire d'un kibboutz, il a pris son cahier. Et son cahier, il a écrit le nom de sa mère, le nom de son père, le nom de sa ville. Il a un peu reconstruit quelque chose. Parce que parler de son enfance, c'est vrai que c'est... Pour lui, c'était difficile. On voit tout le travail qu'il fait pour pouvoir s'emparer d'une langue et transmettre quelque chose dans cette langue. Donc ça a été, voilà, comment ont démarré les romans pour lui et comment a démarré la fiction.
Son père s'appelle Michael, sa mère s'appelle Bounia.
Exact.
Le nom de sa ville s'appelle Tchernovitz.
Exact.
Et c'est pas en disant mon père, ma mère
non.
Et la ville, c'est en réécrivant les noms.
Voilà.
Que tout à coup, les noms sont comme des graines,
oui.
Qu'ils sèment,
oui.
Et puis elles vont pousser, et ces graines de noms qui poussent, c'est justement la fiction. C'est-à-dire, c'est à la fois se rappeler, mais en même temps, c'est créer des personnages. Et alors, on sent chez lui, et on en reparlera la semaine prochaine, dans sa façon de parler, quelque chose d'une humanité profonde. Mmh. Et on sent qu'il écrivait pour retrouver le peu d'humanité chez les humains, absolument, dans les situations de crise. Absolument. Pour retrouver les petits gestes, la petite bonté, comme disait Vassili Grossman, cité par Lévinas, pour nous parler de cette petite bonté, du bien modeste, concret, le bien sans témoin, le geste de bonté envers un inconnu, un acte de solidarité et de compassion qui ne change pas l'histoire, disait-il, mais qui sauve un être humain à un moment précis. Mmh. On a l'impression que l'éthique a aussi besoin de fiction, du filtre de la fiction, peut-être comme sur le divan du psychanalyste, comme vous l'avez évoqué, Valérie Perraguillot.
Moi, je dirais que l'analyse, c'est pas du tout comme ça. C'est au fond plutôt assumer sa part d'horreur, assumer ce que chacun peut avoir d'assez horrible, mais pas l'assumer pour aller casser la figure au premier qui passe, mais l'assumer pour savoir que ça existe et pour en faire quelque chose d'autre que l'horreur. Donc c'est pour au fond peut-être transformer cette part d'horreur en humanité.
Merci René Adjiman et merci Valérie Perraguillot pour cette très belle conversation que je vous propose de continuer la semaine prochaine. En attendant, je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé, « Rencontre avec Aaron Appelfeld », un très très beau livre, c'est aux éditions Imago. Merci encore, mesdames.
Eh bien, merci Marc Alain pour votre invitation.
Oui, vraiment, merci mille fois.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui, Éric Perruchot-Triboulet, à la réalisation, Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.